Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, les élections européennes vues depuis l'Ille-et-Vilaine et la Bretagne. Interview avec les associations LAO et Fanzine pour annoncer les Nuits des Forêts. C'est du 7 au 16 juin partout en France. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, la visite du jardin chinois de Morpah, inauguré récemment avec la ville et l'association des Agités. Et puis deux recommandations en fin d'émission, conseils livres et paille. Oui, oui, vous avez bien entendu, bienvenue dans l'arène. L'émission d'information locale, elle commence toujours avec l'info du jour, une parmi d'autres dans ce qu'on lit dans les médias locaux. Aujourd'hui, J-4 avant les élections européennes organisées sur le territoire français dimanche 9 juin. En Ille-et-Vilaine, 400 personnes étaient à pied d'œuvre pour assurer l'organisation logistique depuis le 28 mai et jusqu'au 3 juin. Ça se passait au parc des expositions près de Rennes. 300 fonctionnaires étaient mobilisés, accompagnés d'une centaine de demandeurs d'emploi en insertion. Leur mission, mettre sous pli 786 000 professions de foi et bulletins de vote. Une opération qui était aussi en partie sous-traitée au groupe La Poste, et ça fait plusieurs années que c'est le cas. Au-delà de la mise sous pli, la préparation logistique comprend aussi un accompagnement des communes, qu'il s'agisse de la préparation des listes électorales, du matériel nécessaire ou encore de l'organisation des bureaux de vote. Toujours sur les élections européennes, Benjamin Kell signait hier un papier dans Le Monde sur la Bretagne comme territoire stratégique pour les candidats. Le journaliste rennais rappelle que les différentes têtes de liste se sont succédées lors de meetings ces dernières semaines dans une région où les électeurs sont plus europhiles qu'ailleurs dans le pays. Pour rappel, en 1992, soutien massif des Bretons au traité de Maastricht, puis en 2005 à la Constitution européenne. Je cite, il y a donc des voies à prendre dans la péninsule, d'autant que le duel longtemps annoncé entre la liste Renaissance et celle du Rassemblement National y semble moins clair qu'ailleurs. Fin de citation. Le reste, c'est à lire en ligne. Après cette info du jour, on passe à une interview. Régis Morel et Timothée Cantard, bonjour.
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 Je vous présente. Régis, vous êtes éducateur de grimpe d'arbres dans l'association LAO. Timothée, vous êtes écologue et puis l'initiateur de ce fanzine Cui-Cui, réalisé avec une association qui s'appelle Fanzine. Et ensemble, on annonce les Nuits des Forêts. C'est organisé à l'échelle nationale du 7 au 16 juin. Sur le territoire breton, ce sont 12 sites qui vont accueillir des propositions en Ille-et-Vilaine, par exemple, du côté de Fougères, de Saint-Ganton, de Brocéliande et de Liffré, avec votre proposition qu'on va annoncer. Le programme complet, il est à retrouver en ligne sur le site nuit au pluriel des forêts.com. Quels sont vos liens respectifs à la forêt, Régis et Timothée? Régis, c'est votre terrain de jeu presque quotidien?
C'est ça, c'est à la fois mon bureau, mon terrain de jeu. Au-delà de la forêt, c'est plutôt aussi l'arbre. Donc notre première approche de l'arbre, c'est au plus près des personnes avec qui on bosse, donc les jeunes des quartiers, en particulier avec le Nez et sur Rennes. Et après, donc la forêt, plutôt la forêt de Rennes, donc là où va se passer l'événement du 14 juin. Voilà, la forêt, sa biodiversité, son univers. Voilà.
Qu'il y a des arbres qui s'y prêtent mieux que d'autres?
Alors, oui, on a beaucoup de hêtres, par exemple, sur la forêt de Rennes, des grands hêtres. Ce sont aussi les mêmes essences qu'on trouve au bord du canal Ille-et-Rance. Et puis après, sur le quartier Clenay, on a une petite diversité de pins, de cèdres. Voilà.
C'est déjà pas mal. Timothée, vous, en tant qu'écologue, l'écologue qui étudie l'impact des activités humaines sur l'environnement, on imagine que les arbres constituent, puisque c'est un refuge pour la faune, un objet important d'observation.
C'est sûr que l'arbre est habité. Alors, encore plus certaines essences que d'autres, hein, c'est certain. L'hêtre est un bon exemple d'arbre qui préserve la biodiversité locale. Après, moi, c'est sûr qu'en tant qu'écologue, je vais m'intéresser de très près à la biodiversité de l'arbre, même si la forêt, c'est pas forcément un milieu que j'ai l'habitude de fréquenter en tant qu'écologue. Donc, j'ai d'abord un rapport plutôt contemplatif à la forêt en m'imprégnant de de l'ambiance, des odeurs, etc. Puis après, l'œil plutôt naturaliste qui arrive en essayant de comprendre les champs, des oiseaux, les essences d'arbres et les interactions entre tout ça.
L'écologue, il s'intéresse plutôt à l'arbre dans un cadre urbain, parfois dans l'objectif de le protéger lors d'opérations aussi d'aménagement, de choses comme ça.
Ça peut être le cas, pas forcément. Alors moi, c'est vrai que j'ai une spécialité sur les milieux, on va dire, urbains et périurbains. Donc je m'intéresse plutôt à la préservation de ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, même si j'aime pas vraiment ce terme. Donc de comment on préserve les espaces végétalisés et comment on ramène du vivant en ville. Et c'est vrai que les milieux plus moins anthropisés, on a tendance à les observer dans un second temps ou pas pour les mêmes raisons, en tout cas en tant qu'écologue.
Vous participez ensemble à cet événement, les Nuits des Forêts, c'est la 5e édition. On vous retrouvera en forêt de Rennes à Liffré, c'est une forêt domaniale donc qui appartient à l'État. 3300 hectares gérés par l'ONF, l'Office National des Forêts. Pourquoi là-bas? C'est parce que vous y êtes souvent avec l'association là-haut?
Tout à fait, c'est la plus grande forêt domaniale de Bretagne déjà, et c'est un formidable terrain de jeu comme on a déjà dit, à 20 minutes, 25 minutes de Rennes en bus. Nous c'est un véritable défi d'emmener des Rennais, en particulier les jeunes, encore une fois des quartiers, à aller explorer la forêt, et oui on y est très souvent, en particulier depuis quelques jours, là où il fait beau quoi.
Ouais, la saison a été rude pour vous?
La saison était rude, non, la pluie ne nous arrête pas.
On peut grimper tout le temps ?
Oui, on travaille sur éduquer dehors, notamment avec les écoles, et j'ai envie de dire, c'est tout aussi intéressant quand le temps n'est pas forcément de la partie. Ça fait partie notamment du jeu, et ça crée des situations, des émotions tout à fait intéressantes.
Ce que vous proposez vendredi 14 juin, c'est une balade nocturne, donc avec à la fois fanzine et puis l'association là-haut. Il reste très peu de place, donc il faut se dépêcher si des auditeurs souhaitent y participer. Et puis bon, vous proposez des choses régulièrement dans le cadre des Nuits des Forêts, et puis même hors de cet événement. Donc pas de panique, à quoi va ressembler cette soirée du vendredi 14 juin?
Je peux commencer, Timothée va le relayer. Déjà ça va se passer en forêt, ça commence à 18h30, c'est au parc de la Jutauderie, donc à Torigny-Fouillard. Il va y avoir une petite balade en fait, il va falloir rentrer, donc on rentre à pied dans la forêt, un petit peu de temps de marche. Ce sera l'occasion de visiter des œuvres qui sont installées depuis quelques temps dans la forêt. Donc il y a une œuvre de Tiphaine Calmette, une œuvre de Laurent Tixador, il y a aussi l'école de design qui a installé des choses. Et puis on va se rapprocher d'un être. Sur lequel il y a un filet où les personnes pourront s'allonger et écouter des choses.
C'est là que je prends la suite. Donc nous, on propose une lecture perchée avec plusieurs lecteurs et lectrices de l'association et qui ont participé à Cuicui pour la plupart. Donc l'objectif, c'est d'aller raconter des histoires, nos histoires de non-humains, comme on les appelle dans le fanzine. Et ça va être beaucoup de poésie, beaucoup que l'on retrouve dans Cuicui, mais aussi d'autres textes qui nous inspirent, ou d'autres textes de composition personnelle, et l'idée va être de se laisser plonger dans les univers de vivants.
Et ça va se poursuivre même une fois la nuit tombée?
L'idée c'est de terminer vers 22h, effectivement, je trouve que l'ambiance est totalement différente quand la nuit arrive. Il y a des ouvrages d'ailleurs là-dessus, sur la peur de la forêt la nuit. On a envie que le groupe quitte la forêt de nuit, ça donnera une ambiance particulière.
Bon, alors cet événement, c'est l'occasion de parler du nouveau numéro de Cuicui, un fanzine d'exploration du vivant qui va bientôt sortir son numéro d'été. C'est le troisième. Ceux qui sont passés à côté, comment est-ce qu'on décrit ce projet-là, Timothée?
Alors Cuicui, c'est un fanzine d'exploration du vivant. Donc on raconte des histoires de vivants au pluriel à travers des formats poétiques, du conte, des nouvelles, des portraits. On travaille avec des artistes, illustrateurs, illustratrices et des auteurs, autrices locaux. Le fanzine est saisonnier, donc on a sorti une édition de printemps, une édition d'hiver, maintenant une édition d'été et viendra l'édition d'automne. À l'automne.
Est-ce que ça se poursuivra après, une fois que vous aurez fait le tour des saisons?
Ça va se poursuivre, mais ça va changer de forme. On arrêtera les éditions saisonnières et on fera d'autres choses à découvrir.
Oui, on ne va pas tout dire. Ce que j'ai noté, c'est que vous parliez des humains qui réalisent cet objet, qui raconte des histoires de non-humains. 18 artistes et naturalistes bretons, mais pas que.
mais pas que. Au début, on était sur 100% breton et en fait, on nous a au fur et à mesure contactés pour contribuer. Et quand même, on se disait, c'est quand même cool d'avoir des personnes qui nous contactent et c'était difficile de restreindre forcément le fanzine à la Bretagne parce que le vivant ne se cantonne pas aux frontières administratives. Donc, on a ouvert un peu à d'autres personnes, mais ça reste 80% breton et on a des incursions d'autres territoires.
Bon, bah ça va alors. Et en plus de ça, c'est une équipe qui est quand même très féminine, en regardant un peu qui se cache derrière ce fanzine cuit-cuit.
Oui, effectivement. Alors, j'ai pas la proportion, mais je pense qu'on n'est pas loin de 80% de femmes dans le fanzine. Ouais.
Là, on est au moment de la pré-vente, donc on peut aller réserver son numéro de Cui-Cui en ligne sur la plateforme de financement participatif ulule.com. Vous avez un objectif de 200 exemplaires à vendre, mais qui est déjà bien avancé. Vous commencez à vous installer numéro après numéro.
Oui, alors c'est pas forcément un moment qu'on aime particulièrement, la campagne de pré-vente. Aujourd'hui, on en a besoin parce que on finance nos fanzines en partie grâce à ça. Et surtout, en fait, on ne veut pas imprimer trop de fanzines pour ne pas avoir trop de stock que l'on ne distribuerait pas. Donc, ça nous permet de calibrer un peu les impressions et de faire au plus juste.
Cette fois, vous nous promettez 36 pages de poésie, de contes, de micro-nouvelles, de portraits et même de chansons. On va y arriver. Peut-être dire un peu les territoires qui sont explorés et puis des noms d'espèces que je ne connaissais pas, comme d'habitude. Peut-être à part l'engoulevent d'Europe. Mais nous dire un peu qui on va y rencontrer sans tout dévoiler, bien sûr.
Oui, alors cette fois-ci, on a pas mal écrit le fanzine. Donc on propose une balade qui commence dans l'océan et qui finit dans les champs, en passant par différents milieux. Que ce soit l'estran, les dunes, les tourbières, aussi un petit peu les forêts, les landes, etc. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très cohérent qui part de la mer jusque dans les terres. On va travailler sur des espèces comme le haricot de mer, qui est une algue. On a les fous de bassin, qui sont des espèces d'oiseaux marins. On aura le guépier d'Europe, qui est une espèce aux couleurs très chatoyantes. D'oiseaux que l'on voit que sur la pointe du Finistère, notamment, et puis des espèces végétales comme la linaigrette à feuilles étroites.
Je pensais que c'était un oiseau, moi, du coup.
Et non, c'est une espèce qui a une tête un peu de plante cotonneuse. Donc, elle est très, très belle quand on la voit dans les tourbières.
Et pour ce troisième numéro, nouveauté, vous avez imaginé une bande sonore pour accompagner les lecteurs.
C'est nouveau, en fait.
D'où est venue l'idée ?
On a eu une mise en contact avec deux artistes qui s'appellent, de leur nom d'artiste, Forest Bloom et Sainte Lunaire, qui font du field recording, donc qui captent des paysages sonores. Et qui ont été intéressés pour nous accompagner dans la création d'une bande originale sur l'ensemble du fanzine. Donc c'est entre des paysages sonores et des balades électroniques, on va dire. Chaque texte aura son morceau. Donc l'objectif, c'est de renforcer l'immersion dans l'univers du fanzine, donc l'immersion dans la lecture par la bande originale. Et on pourra aussi voir cette bande originale jouer en concert.
On peut déjà donner une date, même si on prend un petit peu d'avance. L'été sera bien arrivé, donc à la ferme de Quincey, où on retrouvera ces musiciens.
Oui, on retrouvera ces musiciens qui joueront le fanzine et leur set le 18 juillet.
C'est noté. Chez Lao, l'été se prépare aussi. On imagine qu'il y a des colos qui vont arriver.
Oui, il y a un séjour, ce qu'on appelle un séjour artistique, qui va avoir lieu avec les jeunes, en particulier de Clenay, mais aussi des autres quartiers rennais. Ce sera la première semaine des vacances. On part en tournée, en fait, on crée un spectacle dans les arbres avec la compagnie Vertige, et ce sera au bord de la Vilaine. L'idée, c'est d'arriver à Redon en vélo et de s'arrêter au pied des arbres et dans les arbres pour proposer des parenthèses artistiques. La semaine d'après, il y a un événement qui s'appelle « Ça bouge à Clenay ». Donc on sera tous les après-midi à Clenay, donc avec les jeunes avec qui on est parti en séjour. Et il y aura le mercredi soir normalement une proposition aussi artistique. Et tout l'été, on sera aussi dans les quartiers du Blône, de Villejean et de Morpa pour proposer des sessions dans les arts, donc y compris avec parfois les médiathèques. de Rennes avec des lectures perchées tous les après-midi. Donc il faudra regarder le programme sur le site de Un été à Rennes ou sur le site de là-haut.
Sur le jeune public, il faut un peu aller les chercher pour les convaincre de tenter la grimpe d'arbre où il y a une curiosité un peu naturelle.
Alors sur les très jeunes, non, ça fonctionne très bien, mais nous on essaie de cibler justement les ados, les collégiens, et non, ça marche bien, c'est plutôt mix. Ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de se servir de la grimpe d'arbre pour les amener vers le territoire du livre notamment, de la créativité de manière générale. Souvent on leur dit, ben voilà, tu montes jusqu'au siège à Mac, tu lis le livre, tu n'as pas le droit de descendre avant d'avoir terminé.
Il faut de la contrainte, comme
voilà.
Ça.
Voilà, et en fait, ça marche hyper bien. Donc, c'est pour ça que les partenariats avec les médiathèques, c'est ce qu'on recherche. Voilà, puis il y aura aussi d'autres événements quand même sur la forêt de Rennes. On peut quand même l'annoncer entre parenthèses, mais on aimerait aussi poursuivre avec Fanzine et d'autres des moments de création, des parenthèses artistiques auront lieu d'ici quelques mois dans la forêt de Rennes. Donc c'est un petit appel aux artistes et aux gens qui sont sensibles à l'art et aux vivants. Si vous avez envie de faire partie de l'aventure, il faudra vous adresser soit à Fanzine ou soit à là-haut. Il va se passer des choses.
On retrouve vos deux structures en ligne sur des sites internet et puis aussi sur Instagram. Régis Morel et Timothée Cantard, on vous représente. Vous êtes respectivement donc animateur, éducateur de grimpe d'arbre dans l'association Là-haut et puis fondateur de ce fanzine Cui-Cui qui est actuellement en pré-vente sur la plateforme ulule.com. On a pu annoncer les nuits des forêts qui sont organisées à l'échelle nationale du 7 au 16 juin. Le détail est à retrouver en ligne sur un site dédié. Petite parenthèse, il se passe aussi des choses à Saint-Ganton, au sud de Rennes. Rendez-vous samedi 8 et dimanche 9 juin à Corbinières, une grande zone boisée traversée par des ruisseaux qui convergent vers l'étang des Forges et forment un fond de vallée humide. Ce sont les vallées de Beaucelles. Un terrain de jeu à explorer tout un week-end à travers des sorties nature, projections documentaires, une conférence sur la faune sauvage, une veillée festive le samedi soir, mais aussi de la méditation, un bain sonore, de la danse et de la musique avec les plantes. Timothée, on vous retrouvera aussi avec Fanzine dans le cadre des Nuits des Forêts. Du côté de la forêt de Pimpon, c'est complet, mais on peut peut-être dire un peu quel thème vous allez explorer.
Oui, alors là, c'est avec deux artistes, Lucie Robin et Noémie Nicolas. On a travaillé sur un format d'atelier ludique et immersif sur le renard roux.
C'est voilà. Le samedi prochain.
C'est le 8, oui.
Samedi 8 juin de 14h30 à 17h30, peut-être que les auditeurs intéressés peuvent encore trouver une place si jamais il y avait des désistements. Et ça se passe donc à Pimpon, pas si loin que ça de Rennes. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Thank you.
Vous venez d'entendre l'ode aux haricots de mer, un morceau de la bande-son du prochain numéro Cui-Cui, imaginé par Forest Bloom et Sainte Lunaire. Et pour la découvrir en intégralité, cette bande-son, eh bien, il vous faut réserver votre numéro du fanzine, tarif à partir de 8 euros. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, une radio qui fête ses 40 ans. À cette occasion, on organise pas mal de choses et il y a notamment un répondeur téléphonique qui attend vos souvenirs de la radio sous forme de messages vocaux. Pour participer, rien de plus simple, vous ajoutez le 07 60 24 95 77 dans vos contacts WhatsApp et puis vous vous enregistrez, vous savez, en gardant votre pouce sur le micro. Vous vous présentez, vous nous racontez votre souvenir, qu'il s'agisse d'un groupe découvert sur nos ondes, d'une participation comme bénévole ou invité, d'une rencontre qui a peut-être été déterminante dans votre parcours, et vous pouvez même nous faire écouter des ambiances autour de vous, soyez créatifs. On poursuit l'émission d'info locale avec un reportage réalisé au jardin chinois de Morpa à Rennes. Un nouveau lieu à découvrir qui a été inauguré le 20 mai dernier. C'est en fait un projet lauréat d'une précédente édition du budget participatif de la ville de Rennes. C'était sur l'édition de 2017. Un projet porté par le comité de jumelage Rennes-Jinan en Chine et ensuite rejoint côté organisation par l'association d'amateurs de thé, les Agités. Vous allez les entendre dans un instant. Et ses membres, eh bien, je peux vous le dire, ils ont déjà de pouvoir goûter la production issue des 600 plants de thé qui ont été mis en terre. Là, on se retrouve un petit peu après l'inauguration de ce nouveau lieu donc dans la ville de Rennes. C'est un projet qui a été lancé il y a maintenant un petit moment, ça a été long.
Ça commence à dater effectivement. Julien Roux, je suis donc conducteur d'opération sur cette opération de jardin chinois au sein de la direction des jardins et de la biodiversité de la ville de Rennes. Le projet, vraiment l'idée du projet en tout cas, a été mis en ligne par la Fabrique citoyenne donc en fin 2017. Il a été donc sélectionné et on a commencé à travailler dessus en 2018. Donc effectivement, 2018, 2024, 6 ans pour pouvoir justement travailler sur un projet assez complexe parce qu'effectivement, on voulait partir sur la création d'un jardin chinois et pas d'inspiration chinoise et donc forcément manquer de compétences un petit peu en interne. On est allé chercher justement cette compétence auprès de notre partenariat avec la ville de Jinan en Chine. Et donc le service espace vert de la ville de Jinan sont venus sur Rennes pour pouvoir justement étudier avec nous ce jardin-là et voilà, dessiner ce que l'on peut voir aujourd'hui. C'était un retour un petit peu d'expérience parce que au cours des années 2011 de mémoire, eh bien, on avait fait l'inverse. On avait créé le kiosque du Tabor et un jardin à la française en Chine pour justement une manifestation autour des jardins en Chine. Et donc, ils avaient voulu avoir une petite spécificité à la française.
Pour ce projet-là, il y a donc eu des allers-retours entre Rennes et Jinan.
Oui, alors il y a eu surtout deux grosses phases. La première, l'étude, où ils sont venus ici pour prendre les côtes, l'inspiration vraiment des arbres et autres que l'on pouvait avoir sur le jardin et nous faire justement une première esquisse sur le jardin qu'ils imaginaient. Et donc cette esquisse, après, on l'a retravaillée avec des plans plutôt européens pour pouvoir faire travailler nos équipes dessus. Et puis, une deuxième phase pour la pose des tuiles chinoises, une fois que les ouvrages étaient créés, parce que c'est une technique très particulière avec 16 tuiles différentes, avec une méthodologie que l'on ne connaît pas. Et donc on a eu besoin de leur technicité aussi là-dessus pour pouvoir justement les faire poser. Donc on a eu 4 ouvriers chinois qui sont venus pendant une vingtaine de jours poser ces tuiles et nous expliquer un petit peu le fonctionnement justement de cette pose. Mais bien sûr, là c'est vraiment les deux moments où ils sont venus sur Rennes, mais pendant ces 6 années, on a eu des échanges réguliers pour pouvoir justement répondre à des questions sur comment on réalise les ouvrages bois par exemple et comment on achète ces tuiles parce qu'on les a achetées en Chine, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est des tuiles très particulières et on ne pouvait pas forcément les trouver en France.
C'est peut-être l'occasion quand même de mettre en lumière la direction des jardins et de la biodiversité à la ville de Rennes. Ça représente combien de personnes qui ont été mobilisées pour aboutir à ce qu'on voit là autour de nous ?
Alors, c'est une vaste question parce que 6 ans de travail, beaucoup d'abord de l'étude. Hein, on a en gros un maître d'œuvre qui a travaillé sur le projet depuis le début. Et puis derrière, pas mal d'interventions que l'on a fait en régie pour la totalité de la partie espace vert, aménagement de la fontainerie, enfin de la cascade notamment. Mais en amont, on a eu des entreprises pour pouvoir faire le génie civil et l'hydraulique de l'ensemble des cascades et rivières que l'on peut voir là. Au final, une association qui s'appelle Désarbrer des Hommes qui ont réalisé l'ensemble des ouvrages bois ici et une entreprise de terre crue pour pouvoir réaliser les murs en bauge et donc une entreprise qui s'appelle Terre Crue.
Sur le choix du lieu, en fait, il n'est pas anodin, c'est une question d'eau si vous avez décidé de le déployer ici, ce jardin chinois.
C'est ça. Le jardin chinois, en fait, c'est un savant mélange entre 4 éléments. L'eau, bien sûr, la pierre, parce qu'en fait, c'est souvent dans des régions montagneuses et autres, donc la pierre est importante. Le végétal et le dernier élément, c'est les fabriques, l'ensemble des ouvrages qui permettent d'animer le jardin. Donc c'est un savant mélange justement de ces 4 éléments pour pouvoir créer le jardin chinois. Et donc on avait la chaîne d'eau du parc de Maurepas qui était existante, même s'il avait été créé en 1936. Donc forcément, cet ouvrage commençait à vieillir un petit peu, donc il a fallu le remettre en état, mais on ne partait pas de zéro pour pouvoir justement avoir de l'eau sur le secteur.
C'est quoi ce qu'on appelle une chaîne d'eau ?
Alors, la chaîne d'eau, tout simplement, c'est qu'on a un système de bassins et de rivières avec des systèmes de niveaux qui permettent d'avoir des chutes d'eau et des cascades qui permettent d'arriver dans un bassin en partie basse et des pompes pour pouvoir remonter en circuit fermé l'eau jusqu'en haut de la montagne pour que ce circuit soit infini sans consommation d'eau.
On se retrouve donc avec autour de nous une cascade et un bassin, un aménagement paysager et puis 4 ouvrages en tout sur une surface de 5000 mètres carrés. Est-ce qu'on peut essayer de donner un peu à voir aux auditeurs qui ne font que nous écouter à quoi ça ressemble ?
Globalement, on est donc sur un parvis haut. On est sur une région de Chine, comme je disais à l'instant, Jinan, qui se veut un petit peu volcanique et montagneuse. Donc, notamment, on a cette montagne d'où surgit justement cette cascade. On a des remontées de bulles sur le bassin, justement avec cette région montagneuse. Au pied de la cascade, on a le pavillon chinois rouge décoré. Et qui permet de pouvoir à terme accueillir différentes manifestations, bien sûr la fête de thé dont on parlera tout à l'heure, mais aussi différentes manifestations d'autres associations, chinoises ou pas, pour pouvoir occuper les lieux.
C'est pas parce que c'est un jardin chinois, comme je viens de dire, c'est ouvert à tout le monde. On avait une tente marocaine où ils faisaient du thé à la menthe et tout ça.
Des démonstrations de thé, mais japonais aussi. Hein. C'est pas parce que, comme on disait, que c'était chinois, que c'est absolument pour le tai chi, ainsi de compagnie. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis après, on peut redescendre vers le bas de la rivière en passant au-dessus de petits pontons, de tables de pierre et autres pour profiter du paysage et de la végétation japonaise, enfin chinoise, pardon. Là, c'était un beau lapsus, même si, je vais me rattraper, les jardins chinois et japonais sont relativement proches et à un moment donné de l'histoire vont se séparer pour arriver à 2 éléments différents. Mais c'est un lapsus parce que dans la fabrique citoyenne, on a quelques années avant réalisé aussi un jardin japonais.
Qui est sur quel secteur ?
Qui est sur le square de Sendai. La végétation, globalement, on a déjà des arbres qui ont de la prestance sur le lieu. Tout n'a pas forcément été planté sur le parc. L'objectif dans ce lieu-là, c'était de conserver notre patrimoine arboré existant avec des choses qui étaient déjà originaires, entre guillemets, de Chine, notamment le ginkgo que l'on peut voir ici, l'arbre aux 40 écus, que l'on utilise beaucoup dans la pharmacie notamment et produits de beauté. Donc ça, c'est des arbres que l'on avait déjà sur place, mais aussi d'autres arbres un petit peu moins orientales, entre guillemets. Mais voilà, l'objectif, c'était vraiment de garder ce patrimoine déjà existant et de compléter l'ensemble du jardin avec justement de la végétation que l'on pourrait trouver en Asie.
Et notamment du thé, on fait la transition.
Et notamment du thé.
Comment est-ce qu'on vous présente ?
Je suis responsable de l'association Les Agilités. On est une petite association des amateurs de thé qui apprécient le thé, puis on se réunissait. Et puis on s'est dit, comme le thé commence à s'implanter en Bretagne, on a pensé à faire une plantation aux côtés du parc des Gaillales. J'ai été voir le directeur de l'Institut Confucius, Blaise Thierrier, et puis il m'a dit, c'est super, il y a le comité Rennes-Vilaine qui a un projet de jardin chinois à Montpas. Alors on s'est mis en collaboration, on a présenté le projet, et puis c'est parti, c'est comme Julien l'a dit, ça a été énormément de réunions et tout ça, les Chinois qui sont venus, tout ça.
Donc, il y a du thé ici dans ce parc?
Alors, il y, a des plantations de thé théiers. Il y en a qui ont été faits depuis un an ou deux, d'autres cette année, mais qui ont déjà poussé un peu en pépinière, chez les pépiniéristes. Donc, on pourra commencer à récolter. On fera des démonstrations comment on cueille le thé, comment on transforme le thé à partir de l'année prochaine.
Comment vous les avez choisis, les espèces?
Le thé, globalement, déjà, il faut savoir que c'est un camélia. Le camélia, presque comme celui que l'on a chez soi dans son jardin. Hein, et c'est pour ça qu'il aime bien la Bretagne, parce que c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Et donc, en gros, c'est le camélia chinensis. Et après, dans le camélia chinensis, il peut y avoir différentes variétés qui vont donner un thé un petit peu différent. Donc, on a à peu près 600 plants qui ont été plantés justement pour pouvoir permettre demain de faire ce thé.
Je ne savais même pas que le thé, ça pouvait pousser chez nous.
Alors, il y a beaucoup de théiculteurs, de producteurs de thé. Il y a Denis Mazeral et sa femme à Languedic. Il y a une femme du côté de Moëlan-sur-Mer, une autre du Asker. Il y a Michel Thévaux et Émile Auté qui sont du côté de Roscoff. Il y en a sur la Rance, il y en a entre Rennes et Nantes, et puis ça éclot de plus en plus. Le climat humide permet aux plantations de résister tout ça. Parce que au début, la plantation est très dure. Mais dès que le théier arrive à se puiser au bout de quelques années, plus profondément et cueillir l'eau, elle résiste mieux.
Ah, lui, il a l'air très gros là-bas. Ah, tu sais que les canards, si tu leur donnes du temps, c'est vraiment gros. Ça fait beaucoup à rester.
Depuis l'inauguration qui est encore récente, de quelle façon est-ce que vous observez les habitants se saisir de cet espace-là?
Alors déjà, le jour de l'inauguration, le 20 mai, il y a eu un monde assez inattendu, voire un petit peu trop. Ça a changé un petit peu notre programmation. On devait faire des visites et on n'a pas pu vraiment les faire parce qu'il y avait un monde vraiment très très important. Ça montrait un petit peu vraiment l'attente des Rennais de découvrir ce lieu. Et puis depuis, eh bien, on voit une déambulation régulière d'habitants, voire même d'un petit peu plus loin de Rennes, pour pouvoir justement voir à quoi ça ressemble un jardin chinois. Donc beaucoup de curiosité.
Et pas mal de photos.
Et pas mal de photos, c'est vrai qu'on a presque l'impression d'y être, hein, avec ces portes colorées, ces tuiles vraiment richement décorées aussi, avec des dragons dessus. Donc voilà, ça donne envie de prendre des photos et justement ça attire l'œil.
Terminé, il est admirable, il est magnifique, il est plus beau que ce que j'espérais. Parce que, bon, au début, ça a été très long, les réunions. On a vu le dessin. C'est très beau, une esquisse faite par les Chinois. Quand on a vu, on a parcouru les allées et tout ça. Bon, on s'est dit, on avait un programme, mais bon, ça a été long. Mais quand le Walter a terminé, il y a qu'à voir autour de nous. Il y a plein de gens qui se font prendre en photo. Ils sont surpris de voir que c'est un lieu ouvert. Des riverains qui venaient tous les jours pour voir quand est-ce qu'ils pourraient admirer le truc. Non, il est très beau et j'invite tout le monde à venir voir. Et bon, il y a quelques petits travaux à terminer qui seront terminés pour l'automne et tout ça. Mais déjà, on peut se balader dans le jardin.
Pour revenir à l'association, vous êtes combien chez les agités?
Entre 10 et 15.
Il faut boire quelle quantité de thé par jour pour se dire je vais rejoindre une association d'amateurs?
Il n'y a pas besoin de boire une quantité. On peut venir découvrir, c'est ouvert aux curieux, on explique, on fait goûter les différents thés qui proviennent. Alors, le thé vert, le thé noir, le thé, tout ça provient du même plan, la Camélia sinensis.
Et vous avez peut-être des producteurs avec lesquels vous êtes en lien sur le territoire pour
Ah ben, on a déjà visité, c'est pas un théiculteur, on a été voir le premier théier où on a fait une cueillette de thé, c'est au château de Trévarez. c'est des théiers d'environ 70 ans.
Vous, votre thé préféré, c'est lequel ?
Moi, c'est le thé blanc. Mais c'est-à-dire que tout le monde commence par le thé avec le sachet Lipton, mais quand on ouvre le sachet, on voit que c'est un peu de la poussière. Après, on s'améliore petit à petit et on prend des sachets cristaux, pyramidales et tout ça. Et puis après, on passe au thé en vrac aromatisé. Les Français aiment bien le thé aromatisé. Bon, il y en a très peu en Chine, sauf avec des apports de soit du jasmin, soit des pétales de rose ou des trucs comme ça. Nous, on met des ingrédients des naturels additives. Ou chimiques, et tout ça, ça dépend des marques. Ce qui est admirable dans les constructions, il n'y a aucun clou, aucun vis. C'est tout par emboîtement. Et tout le poids du toit, avec les tuiles et tout ça qui sont très lourds, font que ça tienne.
Tito avec le morceau Napkin sur Canal B. C'était une nouveauté musicale sélectionnée par Yann Barbotin, notre programmateur ici à la radio. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur un album au nom très long, je me lance, When All You Want To Do Is The Part Of Fire. C'est sorti le 12 avril dernier sur le label Infine. C'est le deuxième disque pour ce duo formé par Neysa May Barnett et Émile Laroche, dont j'aime beaucoup le travail. Vous venez de les entendre dans L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, qui se termine chaque jour, je suis sûre que vous le savez, avec la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre dans la région rennaise et pour lesquels je n'ai pas eu le temps de consacrer un temps d'antenne plus long. Parfois aussi des idées lecture, podcasts, documentaires ou encore associations à suivre. Aujourd'hui, on annonce la prochaine rencontre de l'Instantané, cet espace d'exposition au sein de la Maison des Associations à Rennes. L'isolation, paille, filière, perspective, mode de construction, c'est le thème qui sera exploré jeudi 6 juin de 18 à 20 h. Un temps pour présenter et découvrir cette filière en compagnie du collectif Paille Armoricain qui est hébergé ici à la pépinière de la Maison des Associations. C'est une rencontre qui est gratuite et ouverte à tous. Second conseil du jour, c'est l'opération don de livres du CRIDEV, Centre de ressources et d'interpellation pour un monde sans rapport de domination. Tout un projet. Depuis le 4 et jusqu'au 27 juin, l'association donne une centaine d'ouvrages plutôt branchés géopolitiques. Rendez-vous pour peut-être dénicher un livre dans les locaux donc de cet assaut les mardis et les jeudis après-midi. Une vente qui est en fait organisée pour faire de la place pour les nouveaux arrivages littéraires de ce centre de ressources. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.